Bienvenue sur France Culture, il est midi et demi. Tout de suite le journal, Antoine Marette, bonjour.
Bonjour Olivia, bonjour à tous. Déroute pour Joe Biden, victoire pour Bernie Sanders. Les résultats de la primaire démocrate dans le New Hampshire sont tombés cette nuit. Nous les décrypterons avec l'historien spécialiste des États-Unis, Corentin Sella.
Dans votre journal également, Erdogan qui hausse le ton au sujet de la Syrie. Le président turc affirme qu'Ankara va frapper le régime de Bachar el-Assad partout en cas de nouvelle attaque contre ses forces. Il adresse également une rare critique à l'égard de la Russie, l'accusant de massacre.
Le tournant écologique d'Emmanuel Macron a mis mandat. Le chef de l'État veut marquer les esprits en annonçant des mesures en faveur de l'environnement. Cet après-midi, rendez-vous très attendu, le Conseil de défense écologique.
La plainte de Nissan au civil contre Carlos Ghosn. Le groupe japonais réclame à son ancien patron 10 milliards de yens de dommages et intérêts pour sa mauvaise conduite et ses activités frauduleuses.
Midi 55, la grande table des idées avec vous, Olivia Gesbert.
Oui. Et un invité qui doit se réjouir de cette victoire de Bernie Sanders hier dans le New Hampshire. Pour cette course à l'investiture démocrate. Bernie Sanders, donc, qui l'a conseillé, ainsi que Elizabeth Warren sur le programme fiscal des deux candidats. Il est pour une nouvelle justice fiscale. Gabriel Zucman, l'économiste français, sera notre invité.
La primaire démocrate dans le New Hampshire, dont les résultats sont tombés cette nuit, confirme la déroute de Joe Biden. L'ancien favori est relégué à la cinquième place. Et c'est Bernie Sanders qui est en tête. Le sénateur progressiste du Vermont devance le modéré Pete Buttigieg. Bonjour Nadine Epstein.
Bonjour.
Les modérés Pete Buttigieg et Amy Klobuchar talonnent donc désormais Bernie Sanders.
Oui, le sénateur socialiste a remporté 26% des voix, ce qui lui permet d'aborder sereinement les prochaines primaires du Nevada. Le 22 février, puis la colline du Sud. Le 29 février, Bernie Sanders était dans le New Hampshire en terrain conquis, puisque cet État est voisin de son fief du Vermont. Et à la primaire de 2016, il avait battu Hillary Clinton 60% à 38%. Le septuagénaire a été talonné, vous l'avez dit, par Peter Buttigieg, 38 ans, ancien maire de South Bend, dans l'Indiana, qui a obtenu près de 24,5% des suffrages hier. Cette deuxième position offre au candidat quasi inconnu il y a encore un an, de s'imposer dans la course. Même chose pour Amy Klobuchar, qui a décroché la troisième place avec 19,7%. La sénatrice du Minnesota reste confiante pour la suite. « Bonjour l'Amérique, je suis Amy Klobuchar et je battrai Donald Trump », a-t-elle lancé, assurant être la mieux placée pour rassembler démocrates enthousiastes, indépendants et républicains modérés, fermés les guillemets. En revanche, revers cinglant pour deux candidats, Warren et Biden. La sénatrice du Massachusetts Elizabeth Warren a dégringolé et n'a obtenu que 9,3% des suffrages. Et l'ancien président d'Obama, Joe Biden, n'est arrivé que cinquième, une claque à laquelle il devait s'attendre, puisque le candidat est parti en Caroline du Sud avant la fermeture du vote dans le New Hampshire. Pour les prochaines étapes, il compte sur les communautés afro- et latino-américaines pour soutenir sa candidature. À l'issue du scrutin d'hier, deux candidats ont abandonné. Il reste donc 9 postulants et 48 États qui n'ont pas encore voté.
Invité de ce journal, Corentin Sella. Bonjour monsieur.
Bonjour.
Vous êtes historien spécialiste des États-Unis. Est-ce que cette primaire dans le New Hampshire est un tournant dans cette campagne ?
Oui, on peut parler d'un premier tournant, peut-être davantage par la personnalité des perdants, puisqu'on a quand même deux très grands favoris, du moins c'est ainsi qu'ils avaient été présentés depuis un an par les médias, l'ancien vice-président Joe Biden et Elizabeth Warren, la sénatrice du Massachusetts, qui ont subi, comme le disait votre journaliste, un revers tellement cinglant qu'il compromet la suite de leur campagne. Donc en cela, oui, c'est un tournant, parce qu'on a bien du mal à voir désormais ce qui pourrait arriver de positif à la fois à Elizabeth Warren et à la fois à Joe Biden.
Nadine Epstein.
Dans cette saison des primaires, il y a des votes qui sont plus importants que d'autres. Est-ce que celui du 22 dans le Nevada et le 29 en Caroline du Sud sont importants ou faut-il attendre le Super Tuesday, le mardi 3 mars, qui sera un vote dans 14 États, dont deux États les plus peuplés des États-Unis, la Floride et le Texas ?
Alors, on peut faire une réponse double. Les scrutins du Nevada et de Caroline du Sud vont être très importants, d'une part précisément pour Joe Biden, pour lequel ce sera la dernière chance. Le seul maintien en vie de Joe Biden actuellement est de prétendre que avec le vote des Afro-Américains, qui représente, il faut se rendre compte, en Caroline du Sud environ 61% la dernière fois de tout l'électorat démocrate, eh bien Joe Biden dit avec ce vote afro-américain, vous verrez, mes résultats vont s'améliorer. Mais la grande question, c'est qui, en particulier parmi les bailleurs de fonds, les grands donateurs financiers, vont encore subventionner la campagne de Biden après ses échecs en Iowa et New Hampshire. Donc oui, Nevada et Caroline du Sud, c'est très important, mais je dirais surtout pour les deux perdants du jour qui doivent absolument prouver encore la viabilité de leur candidature. Et d'autre part, le Super Tuesday prend une importance particulière cette année avec la présence, on le sait, de ce candidat pour l'instant virtuel qui est Michael Bloomberg, l'ancien maire de New York, qui a déjà dépensé plus de 200 millions de dollars en publicité pour précisément, en ciblant ce Super Tuesday, il ne participe pas aux quatre premiers scrutins. Et lui a tout misé sur ce jour-là. Et on attend en quelque sorte son entrée en campagne, voir s'il peut bouleverser complètement la donne. Donc on voit deux échéances en quelque sorte un petit peu différentes.
Alors au niveau des sondages au niveau national ces derniers jours, ce ne sont que des sondages au niveau national. Pete Buttigieg n'est toujours qu'en cinquième place, donc loin derrière, mais il progresse. Est-ce que l'élection d'hier va lui donner un nouvel élan ?
Oui, de toute façon, jusqu'à présent, il fallait vraiment considérer ces sondages nationaux avec la plus grande circonspection. Incontestablement, Bernie Sanders et Pete Buttigieg sortent comme les grand vainqueur de cette première étape des primaires, des caucus de l'Iowa et de la primaire du New Hampshire. Et on avait déjà vu après l'Iowa que les deux hommes avaient progressé dans les sondages nationaux et ils vont continuer parce qu'ils sortent. Donc Bernie Sanders a gagné hier, Pete Buttigieg a gagné en Iowa de très peu également, et on va les voir progresser dans les sondages nationaux. Donc effectivement, tous les deux sont bien placés, mais dans des dynamiques très différentes. Et les sondages nationaux répercutent toujours avec un peu de retard les dynamiques qui proviennent toujours d'élections très locales.
Et pourtant, si chaque victoire, comme vous dites, donne un élan particulier aux candidats pour la suite, la liste des 9 candidats démocrates va se réduire au fur et à mesure de ce marathon électoral. Et les candidats qui abandonnent, c'est par manque de voix et par manque d'argent ?
Alors l'un entraîne l'autre, hein, c'est vraiment la loi des reins de la présidentielle états-unienne depuis la libéralisation du financement des élections. Il faut gagner, ou en tout cas il faut être dans une bonne dynamique pour que les donateurs, qui sont des donateurs privés, vous continuent à vous faire confiance. Et en fait, ce qui se passe, c'est que dès que vous enchaînez une ou deux mauvaises performances électorales dans un scrutin, eh bien les financements se tarissent. Alors évidemment, ça c'est valable pour tout le monde, sauf pour les milliardaires façon Bloomberg, qui, eux, s'autofinancent à caisse ouverte et sans limite.
Bernie Sanders, lui, il prône une révolution politique, hein, pour parvenir à une société plus juste. Il propose notamment d'aller vers un système universel de couverture santé. Ce sont des idées très à gauche pour les États-Unis. Est-ce que ça ne va pas l'handicaper pour la suite ?
Non, on peut pas le dire actuellement. Déjà, premièrement, il faut savoir que, par exemple, c'est très bien montré dans beaucoup d'études du Pew Research Center, les idées socialistes, le socialisme, l'appréhension même du socialisme progresse chez les plus jeunes, chez les 18-35 ans. C'est un mot qui ne fait plus du tout peur à cette génération-là, qui peut même être apprécié. Donc ça, il faut bien le garder en tête, et c'est ce qui explique en particulier le succès remarquable de Bernie Sanders dans l'électorat des 18-35 ans. D'autre part, c'est impossible à dire pour le moment, parce que si Bernie Sanders est le nominé du Parti démocrate, et effectivement il est tout à fait en ce moment en position pour l'être, il lui faudra rassembler, sans doute amender son projet au moment de la convention, et revenir peut-être faire des compromis politiques et revenir à quelque chose peut-être d'un petit peu plus conforme à la tradition démocrate. En tout cas, il lui faudra faire des compromis de sorte à ne pas effrayer l'électorat indépendant, plus modéré, moins politisé, qui fait souvent la différence lors des scrutins serrés de novembre.
Quel est, à votre avis, le candidat démocrate le plus à même à amener les électeurs américains qui ont boudé finalement les élections, puisque la moitié d'entre elles n'a pas voté ?
Alors en fait, on a deux stratégies différentes dont il ne nous revient pas de dire a priori la validité. Ce sont les faits qui parleront. Mais il y a deux stratégies. Celle de Bernie Sanders est très clairement de mobiliser par la radicalité à gauche, de dire que ce qui a manqué la dernière fois, c'était précisément l'enthousiasme et le vote des jeunes, et que ce vote et aussi le vote des minorités, il faut le retrouver par un programme donc très à gauche, très radical, avec en particulier évidemment le programme de nationalisation publique du système de santé. Il y a un autre raisonnement qui est plutôt celui des modérés, des centristes. On l'a vu très bien expliqué hier par la sénatrice Klobuchar, qui est en quelque sorte la révélation du scrutin pour New Hampshire. Elle vise à ramener, à élargir la tente, comme elle a dit, c'est-à-dire à ramener les républicains centristes, modérés, qui peuvent être effrayés par Trump, mais également les démocrates, j'allais dire, qui pourraient être séduits dans les États du Midwest, comme on l'avait vu par exemple au Michigan en 2016, par Trump, par le discours de Trump vers les classes populaires blanches, donc un discours qui cible surtout les classes populaires blanches et les républicains modérés dans les régions du centre, du Midwest. Et donc ça, c'est un peu plus la stratégie, par exemple, d'une Amy Klobuchar.
Merci à vous, Corentin Célin. Merci également à vous, Nadine Epstein, et Hélène Langlois, à la technique. On va parler maintenant de la Chine, où la machine répressive est en marche dans la crise du coronavirus. Des autorités sanitaires locales du Hubei, berceau du virus, ont été limogées quelques jours après la mort du jeune médecin chinois qui avait lancé l'alerte fin décembre. Mais les critiques continuent sur Internet au point d'inquiéter le gouvernement. Deux activistes qui publiaient sur les réseaux sociaux des vidéos et des articles sur la situation à Wuhan ont été arrêtés. Sur place, le reportage de Dominique André.
Arrivé le 24 janvier à Wuhan par le dernier train avant le bouclage de la ville, Chen Qiuqiu a enquêté durant des semaines dans les hôpitaux, les morgues et au sein des familles. Ses vidéos dénonçant le manque de masques, de blouses et d'équipements médicaux ont remporté un succès immédiat. Mais Chen Qiuqiu, 34 ans, n'a plus donné de nouvelles depuis le 6 février. Dans l'une de ses dernières vidéos postées, le jeune avocat dit qu'il a peur. Le virus est devant moi, derrière moi c'est la loi et le pouvoir. Tant que je serai en vie, je vais continuer de faire mon reportage. Un de ses amis a publié ce message.
La préfecture de Tsingtao et le bureau des services de la sécurité locale sont allés au bureau du père de Chen pour prévenir que son fils était en détention. Sa détention est désignée par le joli nom de quarantaine. Comme Chen a visité plusieurs hôpitaux, les policiers disent qu'ils croient qu'il a pris le risque d'être infecté. Il est donc officiellement en quarantaine, c'est sa maman qui m'a prévenu.
Après Chen Qiuqiu, un lanceur d'alerte, Fan Bing, a été arrêté. Une pétition a été lancée par plusieurs universitaires chinois.
Erdogan hausse le ton au sujet de la Syrie. Le président turc affirme qu'Ankara va frapper le régime de Bachar el-Assad partout en cas de nouvelle attaque contre ses forces. Il adresse également une rare critique à l'égard de la Russie, l'accusant de massacre. Cette sévère mise en garde intervient alors que la situation est de plus en plus volatile dans le nord-ouest de la Syrie, où 14 soldats turcs ont été tués en une semaine par des bombardements des forces de Bachar el-Assad, soutenues par Moscou. À Istanbul, les précisions d'Anand Loer.
Il y a une semaine, alors que 8 soldats turcs venaient d'être tués dans des tirs du régime syrien Idlib, Recep Tayyip Erdogan donnait jusqu'à la fin du mois à Bachar el-Assad pour retirer ses troupes des zones reprises par le régime ces dernières semaines. Des zones où l'armée turque maintient 12 postes militaires en vertu d'un accord russo-turc signé à Sochi en 2018. Ce mercredi, après la mort de 5 soldats dans un autre affrontement, le ton du président turc n'est plus défensif, mais offensif.
Nous sommes déterminés d'ici fin février à repousser le régime au-delà des frontières de l'accord de Sotchi, c'est-à-dire au-delà de nos postes d'observation. Dans ce but, nous ferons ce qu'il faut, sans hésiter, sur terre et dans les airs. Les avions qui frappent les populations civiles à Idlib ne pourront plus mener leurs actions aussi tranquillement qu'avant. Sur terre, nous chasserons les forces du régime au-delà des frontières que nous avons indiquées. À partir d'aujourd'hui, si nos soldats déployés sur nos postes d'observation ou ailleurs subissent la plus petite attaque, j'annonce que nous frapperons les forces du régime partout, sans tenir compte des frontières d'Idlib ou de l'accord de Sotchi.
Le président turc ne cherche donc pas à calmer le jeu alors que ses soldats ne disposent d'aucune couverture aérienne en cas d'agression ou d'offensive en bonne et due forme. Si le régime de Damas se montre lui aussi inflexible, d'autres confrontations pourraient rapidement survenir.
La plainte de Nissan au civil contre Carlos Ghosn. Le groupe japonais réclame à son ancien patron 10 milliards de yens de dommages et intérêts pour, je cite, « sa mauvaise conduite et ses activités frauduleuses ». Des dommages et intérêts censés compenser des dépenses de Nissan que Nissan dit avoir subies à cause des pratiques corrompues de Carlos Ghosn. À Tokyo, les précisions de Yann Rousseau.
Jusqu'ici, Nissan avait limité ses actions en justice contre l'ancien président de l'alliance Renault-Nissan. Le groupe attendait le résultat des procès intentés à Carlos Ghosn par le parquet japonais. L'ex-patron avait été formellement mis en examen à 4 reprises. Mais depuis qu'il s'est enfui fin décembre du Japon pour se réfugier au Liban, ses procédures pénales sont compromises. Et tout le monde a compris ici à Tokyo qu'il ne serait probablement jamais jugé. Donc Nissan se dit qu'il peut maintenant lancer des attaques aux civils. Les avocats de l'entreprise ont donc établi une longue liste des sommes qu'ils veulent réclamer à Carlos Ghosn. Il y a les 750 000 dollars de salaire versés à sa sœur. Nissan dit que c'était un emploi fictif. Il y a de l'argent transféré à un avocat libanais de Ghosn. Il y a les voyages privés de sa famille dans le jet d'affaires de Nissan. On parle là de plus de 6 millions de dollars. Il y a aussi les luxueuses résidences achetées pour lui par le groupe sans qu'il paye de loyer. Et Nissan veut aussi se faire rembourser ce que lui a coûté l'enquête interne et les frais de justice engagés dans plusieurs pays. Alors, les montants réclamés sont assez colossaux, on parle donc de plus de 83 millions d'euros, mais les chances de récupérer ces sommes sont assez faibles. Carlos Ghosn, qui nie catégoriquement toutes les accusations, ne viendra pas se défendre sur place, car il serait immédiatement jeté en prison. Et même s'il perd, la justice japonaise ne parviendra probablement pas à lui faire payer les dédommagements réclamés.
Le chef de l'extrême droite italienne Matteo Salvini affronte aujourd'hui un important vote au Sénat. Ce vote doit statuer sur son probable renvoi devant la justice pour avoir bloqué un bateau de migrants alors qu'il était ministre de l'Intérieur. Un tribunal de Catane en Sicile accuse Matteo Salvini d'abus de pouvoir et de séquestration de personnes pour avoir bloqué donc l'été dernier durant plusieurs jours 116 migrants à bord d'un navire des gardes-côtes italiens. En cas de procès, il encourrait 15 ans de réclusion. Une addition salée pour le réchauffement climatique, elle est calculée notamment par le WWF qui publie aujourd'hui un rapport avec des organisations partenaires sur le coût de la perte de la biodiversité. D'après ce travail, le réchauffement climatique coûterait 430 milliards d'euros en 2050 si rien n'est fait d'ici là. Et ça n'est qu'une partie de la note, Étienne Monin.
Avec cette approche, le WWF donne un prix aux fonctions ou aux ressources de la nature dont l'humanité profite. Le rapport retient 6 écosystèmes, l'approvisionnement en eau, en bois, en poissons, la pollinisation, le relief des côtes et le stockage du carbone. Si rien n'est fait d'ici 2050, la perte en biodiversité aura un impact économique évalué à plus d'un demi-point de croissance à l'échelle mondiale. Les prix de certaines matières premières vont grimper, l'agriculture sera particulièrement touchée, les régions côtières en Afrique et l'Asie centrale seraient parmi les plus vulnérables, mais les pays côtiers comme les États-Unis, le Japon, l'Australie, l'Angleterre seraient aussi fortement affectés. Le rapport insiste sur la possibilité d'éviter le pire. Le développement de zones protégées et une politique de développement durable permettraient de très sensiblement limiter cet impact économique du réchauffement.
Et c'est justement aujourd'hui qu'Emmanuel Macron inaugure son tournant écologique. À mi-mandat, le chef de l'État veut marquer les esprits en annonçant des mesures en faveur de l'environnement, avec bien sûr 2022 en ligne de mire. Cet après-midi, rendez-vous très attendu, le Conseil de défense écologique. Bonjour Pierre Neveu.
Bonjour.
Le chef de l'État devrait annoncer notamment des mesures pour lutter contre les inondations et l'érosion des côtes.
Relocaliser les logements menacés par l'érosion, augmenter la surface des aires protégées à 30% du territoire d'ici 2022, verdir l'administration. Le président va tout à l'heure présenter une vingtaine de mesures pour accélérer la transition écologique. Mais ces annonces ne seront pas suffisantes pour verdir son image. Le chef de l'État enchaînera alors avec un déplacement dans le massif du Mont-Blanc pour constater les effets du réchauffement climatique sur la mer de glace. Depuis le début de son quinquennat, Emmanuel Macron a voulu incarner une présidence verte du célèbre « Make our planet great again » en réponse à Donald Trump, à sa mobilisation contre les feux de forêt en Amazonie l'été dernier lors du sommet du G7 à Biarritz. Le chef de l'État s'est emparé de la cause écologiste, mais sans convaincre. À son actif, il y a pourtant des engagements et des résultats. L'abandon du projet d'aéroport Notre-Dame-des-Landes, de la Montagne d'Or en Guyane, du méga-complexe Europa City aux portes de Paris, la fermeture des centrales à charbon et dans 10 jours maintenant l'arrêt définitif des réacteurs de la centrale nucléaire de Fessenheim. Mais pour les ONG, comme pour Europe Écologie Les Verts, qui ont vu Nicolas Hulot claquer la porte du gouvernement à l'été 2018, Le chef de l'État ne va pas assez loin dans la transformation écologique du pays, notamment dans la réduction des émissions de gaz à effet de serre et le développement des énergies renouvelables. Et c'est pourquoi, à mi-mandat, Emmanuel Macron a décidé de s'engager dans un nouveau modèle écologique, avec comme temps fort la conclusion des travaux de la Convention citoyenne pour le climat au mois d'avril et au mois de juin, l'organisation du Congrès mondial pour la nature à Marseille. Autant dire que ces engagements écologiques sont nettement moins clivants que la réforme des retraites et plus rassembleurs à l'approche des municipales et dans la perspective de la présidentielle de 2022, sachant que la protection de l'environnement est devenue la première préoccupation des Français devant l'avenir du système social et le pouvoir d'achat.
Merci à vous, Pierre Neveu. Depuis quelques semaines, l'inquiétude grandit dans les universités. Il y a bien sûr la réforme des retraites qui va pénaliser les enseignants, mais il y a aussi la loi de programmation pluriannuelle de la recherche, la LPPR, un nouveau sigle qui fait peur. Il s'agit d'une future loi promise par le gouvernement il y a un an. L'objectif affiché est de revaloriser les carrières des jeunes chercheurs et d'augmenter le niveau de la recherche en France, selon le ministère de l'Enseignement supérieur, qui reçoit cette semaine les organisations syndicales. Le contenu de la loi ne sera connu qu'en mars-avril, mais des rapports avec des pistes précises circulent et les personnels des universités sur le terrain ont des craintes. Reportage de Sonia Princey.
Des rapports ont déjà été publiés et ce qui y figure inquiète les enseignants des universités, même si le ministère assure que tout ne sera pas forcément dans la loi. Pour Tatiana Sachs, maître de conférence en droit à l'université Paris-Nanterre, on risque de renforcer la course au financement.
Ce qui nous inquiète, c'est le développement de cette logique de financement de la recherche essentiellement par projet. Ça appuie la logique de recherche sur la compétition. Ça limite, à mon sens, un peu la liberté du chercheur, puisqu'il doit nécessairement se couler, se glisser dans des priorités de recherche qui ne sont pas définies par lui.
Autre crainte, le recrutement. Le ministère veut proposer de nouveaux contrats mieux rémunérés pour attirer les chercheurs qui seraient tentés de partir à l'étranger. Anne Roger, co-secrétaire générale du syndicat SNESUP, n'est pas convaincue.
C'est une pression qui est portée sur les chercheurs qui doivent être performants, qui doivent être en compétition s'ils veulent espérer à un moment ou à un autre être titularisés sur leur poste. L'exemple de la chaire de professeur junior qui serait ouverte pour des jeunes chercheurs et qui serait titularisée à 5-6 ans si ils ont montré qu'ils étaient performants, c'est typique.
Pour le ministère de l'Enseignement supérieur, ces craintes ne sont pas fondées. C'est au contraire une chance pour la recherche avec à la clé 6 à 8 milliards d'euros. Mais les enseignants des universités ont eu tant de promesses ces dernières années qu'ils n'y croient plus.
Coup dur pour le pouvoir d'achat des Français. Les tarifs des mutuelles sont en hausse massive cette année. L'UFC Que Choisir pointe ce matin une inflation médiane de 5%. Elle réclame que les adhérents puissent à tout moment résilier leur contrat pour faire jouer la concurrence. Bonjour Hakim Kasmi.
Bonjour Antoine Marette.
Comment expliquer cette forte augmentation ?
Une hausse de 5% en moyenne, mais qui peut monter à 10,7% pour Apicil et même 12% chez Swiss Life. Concrètement, les augmentations vont de 80 à 150 euros par an et ce sont surtout les personnes âgées qui connaissent les plus fortes hausses de leur mutuelle. Une flambée des prix qui s'ajoute déjà à celle de l'année dernière avec déjà plus 4% en 2019. Les dirigeants des mutuelles justifient ces tarifs par le 100% santé, entré en vigueur le 1er janvier. Ce dispositif permet d'avoir des tarifs négociés correspondant à leur forfait pour des soins optiques ou dentaires. Ce qui a des coûts très importants pour les complémentaires santé, un coût qu'elles répercutent directement dans leurs cotisations cette année, selon l'UFC Que Choisir, et cela malgré les promesses du gouvernement qui avait assuré que sa réforme n'aurait pas d'effet sur les mutuelles. L'UFC qui demande donc d'avancer la résiliation des contrats à tout moment pour faire jouer la concurrence et tenter de faire baisser les prix, une mesure qui doit s'appliquer normalement, mais qu'à partir du 1er décembre.
Merci à vous Hakim Kasmi, on va parler maintenant de vin. Les exportations de vins et spiritueux français ont atteint un niveau record l'an dernier. Elles ont progressé de près de 6% à 14 milliards d'euros. C'est le deuxième poste à l'export pour la France derrière l'aéronautique. Une des explications de ce bon chiffre, c'est en fait l'anticipation par les négociants de leurs achats avant un relèvement des taxes douanières aux États-Unis. Cet après-midi, temps mitigé sur la moitié nord, ensoleillé sur le sud, il fera 5 degrés à Strasbourg, 8 à Cherbourg, 14 à Nice. C'est la fin de cette édition préparée avec Nicolas Paumet. Vous retrouverez Stanislas Vazak à 18h pour le prochain journal.